votre fidélité à Radio Capi, mesdames et messieurs. Cher Antoine Bambara, porte-parole AI de la MONUSCO, vous propose à présent la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse des Nations Unies. À Kinshasa, nous avons l'équipe pays composée de Geneviève Delenoy pour le pilier développement et ensuite Sylvestre Mamoudigaï pour l'humanitaire. Nous aurons depuis Goma le point de la situation militaire avec le colonel Prosper Félix Basse qui va nous faire donc un panorama de la situation militaire dans le pays au cours de ces 7 derniers jours. Nous avons comme invité Madame Françoise Gendahayo, représentante de ONU Femmes à RDC, qui d'un moment à l'autre va nous rejoindre. Et puis vous avez devant vous Abdulaziz Choy, le directeur adjoint du Bureau intégré des Nations Unies pour les droits de l'homme, qui, comme chaque mois, nous fera le point de la situation humanitaire donc dans le pays, sur la situation des droits de l'homme dans le pays. Voilà. Voilà donc pour les titres de cette conférence de presse que nous commençons tout de suite avec les informations des composantes de la MONUSCO. Information publique tout d'abord. Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies RDC, est au sud Kivu depuis hier. Il a eu des échanges avec le gouverneur et les autorités provinciales. Au menu des discussions, la situation sécuritaire dans la plaine de la Ruzizi et à Shabunda, ainsi que les priorités en matière de développement, y compris donc les sujets relatifs à la construction et à la réfection de routes. M. Kobler a salué l'excellente collaboration entre les autorités provinciales et la MONUSCO. Martin Kobler a visité ce matin même l'hôpital de Panzi dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Demain, Martin Kobler se rend en principe à Kalemie. Dimitri Titov, le sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des droits de l'homme et des institutions de sécurité, effectuera une visite en RDC à partir de demain, 27 novembre, jusqu'au 2 décembre prochain. Durant sa visite, il assistera à la cérémonie de destruction d'armes vendredi prochain à Goma. M. Titov visitera également plusieurs localités du Nord Kivu et rencontrera les personnalités politiques de la région. Il rencontrera enfin à Kinshasa ici le ministre de l'Intérieur, celui de la Défense et l'éluteur général auprès de la Haute Cour militaire. En Ituri, une mission conjointe de la MONUSCO s'est rendue du 12 au 22 novembre à Mambasa dans le cadre des activités liées au programme îlot de stabilité. Au cours de cette visite de travail, la mission composée des sections information publique, droits de l'homme, affaires civiles et appui à la justice ainsi que conduite et discipline et police de la MONUSCO a interagi avec les acteurs politiques, administratifs et militaires et policières de la ville de Mambasa. Au cours de la même période à Bunia, le chef de bureau de la MONUSCO en Ituri a fait usage des bons offices dans plusieurs entretiens accordés au gouverneur de la province orientale ainsi qu'aux autorités administratives et militaires dans le cadre du processus de reddition des miliciens FRPI. Il s'agit pour la MONUSCO de suivre de près l'évolution de la situation afin d'y prendre part efficacement lorsque deux parties en négociation le souhaiteront. Une visite conjointe d'évaluation du site de Rwampara, qui devrait accueillir les miliciens FRPI pour le DDR, a été effectuée le samedi 22 novembre dernier, tandis que le 24 novembre, une évaluation conjointe du cantonnement des FRPI à Aveba a eu lieu. Du 30 novembre 1999, 30 novembre 2014, 15 ans déjà que le Conseil de sécurité des Nations Unies a créé par sa résolution 1279 la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, autrefois appelée mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUC, considérée comme l'une des plus grandes missions de paix dans le monde. À cet effet, la division de l'information publique de la MONUSCO organise une série d'activités en vue non seulement de faire le point des 15 ans de présence de la mission de paix en RDC, mais également d'échanger sur les perspectives d'avenir, mais aussi de sensibiliser, conscientiser la population congolaise à travers les leaders d'opinion qui sont notamment les partis politiques, les corporations professionnelles, les organisations de la société civile, la jeunesse estudiantine, pour engager une réflexion objective sur le travail de la MONUSCO. Une note d'information vous sera distribuée à la fin de cette conférence de presse pour plus de détails. Section VIH-SIDA. La section VIH-SIDA de Goma organise le 30 novembre prochain à Kiwanja, à Rutshuru, la journée mondiale du sida. L'objectif général de cette activité est de contribuer à stopper et de réduire le VIH-sida ainsi que le virus d'Ebola et lutter contre les violences sexuelles au sein de la communauté à travers la célébration donc de la journée mondiale du sida 2014. Renforcer aussi les liens de confiance entre la population locale, civile et militaire de Kiwanja et de Rutshuru et la MONUSCO, y compris les agences des Nations Unies. Les objectifs spécifiques de cette activité sont entre autres sensibiliser au moins 1000 personnes sur le VIH-Sida et Ebola, dépister plusieurs personnes sur le VIH-Sida, orienter les cas diagnostiqués positifs de VIH vers les centres de prise en charge, faire ensuite des dons bénévoles de sang, organiser des consultations gratuites. Section d'appui à l'administration pénitentiaire enfin. Le personnel d'appui à l'administration pénitentiaire en liaison avec d'autres partenaires a continué à contribuer au développement d'infrastructures afin d'améliorer les conditions carcérales. Ainsi à Bounia, un protocole d'accord portant sur un projet à impact rapide est destiné à la réhabilitation et la construction de prisons à Guéti a été signé le 12 novembre dernier avec le LINS Project qui a été engagé sous contrat pour réaliser ce projet. Un autre protocole d'accord a été signé le 19 novembre dernier avec l'ONG Association pour le développement et la promotion de la santé publique qui est chargée de mettre en œuvre donc ce projet destiné à la réhabilitation de la cellule pour femmes de la prison de Mabasa. L'UNOPS a signé des contrats avec deux contractants à Bukavu pour débuter les travaux de réhabilitation des prisons de Bouniakiri et de Fizi. Par ailleurs, le consul belge a visité la prison de Kassapa où il a promis de plaider auprès des donateurs afin qu'ils apportent leur soutien pour construire une aile pour mineurs au sein de cette prison et pour améliorer aussi les conditions de vie générale de cette prison. Voilà donc tout pour l'actualité des composantes de la MONUSCO. Nous passons tout de suite à l'équipe pays avec Geneviève Delenoy tout d'abord. Bonjour Geneviève.
Bonjour Charles.
Beaucoup d'informations aujourd'hui sur le volet développement.
Oui, quelques-unes. Le programme des volontaires des Nations Unies, le programme des Nations Unies pour le développement et la MONUSCO organisent actuellement un concours interscolaire de la citoyenneté intitulé Volontaires en herbe qui se tient à la salle Tam Tam scolaire à Goma jusqu'au 27 novembre. La finale aura lieu au foyer culturel des jeunes lors de la célébration officielle de la Journée internationale des volontaires le 5 décembre prochain de 13h à 17h. Comme vous le savez, Volontaires en herbe oppose 8 écoles secondaires de Goma. Les 8 équipes composées de 4 participants s'affrontent sur des questions concernant le volontariat, les droits de l'homme, l'environnement, le développement, la bonne gouvernance, l'intégration africaine, l'actualité congolaise, etc. L'objectif du concours est de sensibiliser les jeunes sur la citoyenneté active et de promouvoir l'engagement civique dans les efforts de paix et de développement. La FAO, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, à présent, une trentaine d'experts en développement de concessions forestières des communautés locales ont discuté ensemble ce mardi 25 novembre à Kinshasa du développement des forêts communautaires à vocation gestion durable de la faune. En effet, la gestion communautaire de la faune à travers le concept des forêts des communautés locales est une option qui n'a pas encore été explorée en RDC. Et pourtant, le gouvernement congolais s'est engagé en août 2014, à travers un décret, à impliquer les communautés locales dans la gestion des ressources forestières. En collaboration avec la Direction de la conservation de la nature, le processus de gestion communautaire de la faune au niveau de 2 sites retenus par le projet a été facilité. Il s'agit du site Bassin de Kisangani dans la province orientale et le site de Madouda dans la province du Bas-Congo. Une feuille de route de ce processus a été élaborée. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet régional intitulé « Gestion durable de la faune sauvage et du secteur de la viande de brousse en Afrique centrale » financé par le Fonds mondial de l'environnement, JEF, et dont la mise en œuvre est coordonnée par la FAO. Le PNUD à présent. Le Forum des énergies renouvelables, FODER, organisé par le PNUD, la coopération néerlandaise au développement, SNV, et le ministère des Ressources hydrauliques et électricité, a connu un vif succès les 20 et 21 novembre dernier à Kinshasa. Près de 300 personnes ont suivi les travaux pendant 2 jours et 5000 personnes ont visité l'exposition promenade composée de 35 exposants issus des secteurs tant publics que privés. Les expositions ont porté sur les nouvelles technologies de transformation énergétique, comme les panneaux solaires, les roues hydrauliques, la formulation de projets et programmes pour fournir l'énergie en milieu rural. Une 4x4 à énergie électrique a été également testée pendant les 2 jours du forum. 8 ministres congolais ont pris part au forum, ainsi qu'une invitée de marque d'Afrique du Sud en charge de l'énergie. Toutes les provinces de la RDC étaient représentées, ainsi que les partenaires techniques, financiers, la société civile et des bailleurs. L'atlas électronique interactif a été présenté. L'Atlas est une première en RDC et en Afrique. Il est réalisé par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, la SNV et le PNUD. Le Forum sur les énergies renouvelables visait à rassembler tous les partenaires politiques, techniques et financiers autour de l'agenda national de l'accès pour tous à l'énergie durable à l'horizon 2030 et à transformer la RDC en une puissance énergétique, environnementale et continentale. À la suite de ce forum, une grande décision est intervenue puisque la RDC est le premier pays de l'Afrique centrale qui bénéficiera de l'appui du fonds régional qui s'intitule « Énergie durable pour tous ». Avec l'appui de la Banque africaine de développement et du PNUD, la RDC développera son agenda d'action pays qui servira de cadre de mobilisation des partenariats techniques et financiers pour atteindre les objectifs de l'accès pour tous à l'énergie durable. Autrement dit, après avoir mené une étude précise des besoins, des zones d'intervention et des capacités, un budget sera dégagé permettant à la RDC d'avancer sur la voie de l'énergie durable pour tous. Et enfin, je termine avec le PNUD au corps, qui poursuit son appui au gouvernement provincial du Nord Kivu dans la mise en place de noyaux, cellules et comités de paix et de développement dans les villages, groupements et chefferies de Bouicha. Cette action a débuté en juillet 2014 quand le PNUD a appuyé le gouvernement provincial du Nord Kivu à travers la cellule provinciale d'appui à la pacification en sigle CIPAP dans la production de textes légaux régissant la coordination des actions humanitaires et de planification du développement local au Nord Kivu, notamment par des affiches et recueils de textes, l'organisation d'ateliers d'harmonisation et de vulgarisation des textes juridiques. Alors, il faut savoir qu'au Nord Kivu, à ce jour, le PNUD a déjà appuyé et mis en place 65 noyaux de paix et de développement dans les chefferies de Baoundé et de Bouicha, et mis en place 15 cellules de paix et de développement dans les mêmes chefferies de Baoundé et de Bouicha. Merci.
Geneviève, merci. Nous passons donc la parole à Sylvestre Tunga Mudigayi qui va nous donner quelques informations sur le volet humanitaire. Sylvestre, bonjour.
Bonjour, Charles.
Je crois que vous commencez tout d'abord par nous parler d'une activité menée par le coordonnateur humanitaire en RDC, Monsieur Moustapha Soumaré.
En fait, Charles, il s'agit d'une déclaration rendue publique aujourd'hui. Le coordonnateur de l'action humanitaire en République démocratique du Congo, M. Moustapha Soumaré, a déploré et condamné la tuerie d'un agent humanitaire tombé dans une embuscade tendue par des hommes armés sur l'axe Bunagana-Bouraï dans le territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. M. Soumaré a indiqué que cet acte n'affectera pas la détermination et l'engagement de la communauté humanitaire envers les populations vulnérables. La communauté humanitaire est préoccupée par l'insécurité persistante dans la province du Nord Kivu, une insécurité qui affecte les populations civiles et restreint l'espace humanitaire. Au cours de 3 derniers jours, 2 ONG internationales et 1 ONG locale sont tombées dans des embuscades tendues par des coupeurs de route, dont l'une s'est soldée, je l'ai dit, par la mort d'une collègue. Les travailleurs de ces organisations ont été dépouillés de leurs biens. le service humanitaire, le service aérien humanitaire des Nations Unies, géré par le Programme alimentaire mondial, a évacué le personnel de ces ONG de Katwe dans le Rutshuru vers Goma. La dépouille de notre collègue originaire du Sud Kivu et en mission de service au Nord Kivu a été évacuée hier vers la ville de Bukavu. Depuis le début de cette année, la province du Nord Kivu a enregistré 107 incidents contre les acteurs humanitaires, dont 6 au mois de novembre. Quelques 63 400 élèves des écoles primaires de 6 territoires du Katanga affectés par les conflits armés et les violences intercommunautaires vont chaque mois bénéficier de 248 tonnes de vivres du Programme alimentaire mondial pour les cantines scolaires. Cette assistance alimentaire vise à maintenir les enfants à l'école et à lutter contre la malnutrition. Au cours de l'année scolaire 2013-2014, près de 250 000 personnes, élèves et enseignants, avaient bénéficié des repas chauds à travers le programme des cantines scolaires dans 12 territoires de la province, notamment Dilolo, Kabalo, Kalemi, Kambove et Pueto.
Sylvestre, merci pour ces informations humanitaires. Direction tout de suite Goma, où nous allons rejoindre le colonel Basse pour des informations militaires. Colonel, bonjour, c'est à vous.
Bonjour Charles, bonjour à tous, bonjour à Kinshasa. Donc nous démarrons comme d'habitude par l'ouest de la République
colonel,
démocratique
du Congo. Colonel, on ne vous entend pas d'ici, peut-être un problème technique.
Oui, donc je disais que nous commençons par l'ouest où l'environnement
technique avec Goma. Nous allons revenir donc à Goma en attendant que les techniciens règlent le son qui ne passe pas donc au niveau de Kinshasa. Nous allons peut-être donner tout de suite la parole à Abdulaziz Choi, qui est le directeur adjoint du Bureau intégré des droits de l'homme en RDC. Bonjour Monsieur Choi.
Bonjour Charles.
Comme chaque mois, vous nous faites le point sur la situation des droits de l'homme en RDC. Est-ce que ce mois-ci, par rapport au mois dernier, la situation est-elle en régression ou en progression? Difficile à dire.
Difficile à dire. Très très difficile à dire. En termes de tendance, nous avons plutôt une petite hausse, une hausse, j'allais dire, assez significative pour le mois d'octobre. Nous avons enregistré pour le mois d'octobre 236 violations des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo, ce qui représente une hausse de près de 57% par rapport au mois de septembre 2014. Les types de violations les plus rapportés sont les atteintes au droit à la vie, d'abord au droit à l'intégrité physique pour 88 violations qui ont occasionné 171 victimes, suivi des atteintes au droit à la vie, 65 violations pour 138 victimes, des atteintes au droit à la liberté et à la sécurité de la personne pour 42 violations pour 112 victimes. Des atteintes au droit à la propriété, 36 violations et 444 victimes. Les provinces les plus touchées restent les provinces de l'est du pays, à savoir la province du Nord Kivu, le Sud Kivu et la province orientale. Et attribuer à l'ensemble des agents étatiques plus de la moitié du nombre total des violations des droits de l'homme enregistrées par le bureau en octobre 2014. Parmi les agents de l'État, il faut comprendre les militaires de la FRDC, les agents de la PNC, qui seraient les principaux responsables des violations des droits de l'homme commises en octobre 2014. Les militaires de la FRDC auraient été responsables de 58 violations, tandis que les agents de la PNC, 57 violations. Les combattants des groupes armés, tous confondus, ont été responsables de 111 violations au mois d'octobre 2014. Parmi les groupes armés, les combattants des forces alliées démocratiques, ADF en sigle, auraient été les principaux auteurs de violations des droits de l'homme pendant la période du mois d'octobre. Comme vous le savez, les ADF auraient intensifié leurs attaques dans le territoire de Beni, province du Nord Kivu, et auraient commis pour le mois d'octobre, selon les informations que nous avons pu nous-mêmes vérifier, 40 violations des droits de l'homme. J'ai dit violations, je ne dis pas le nombre de victimes. La majorité des violations commises par les combattants ADF ont consisté en des atteintes au droit à la vie, 25 violations ayant fait au moins 94 victimes. Il convient de noter que la plupart des exécutions sommaires ont été commises à la machette contre des femmes et des enfants, et la plupart du temps, la nuit. Le 7 novembre 2014, à Kinshasa, la haute cour militaire a condamné, c'est un développement extrêmement important qu'il faut noter, a condamné le général Jérôme Kakwavu à 10 ans de prison pour viol et crimes de guerre par meurtre et torture, commis par lui directement et par les combattants sous son commandement dans le district de l'Ituri entre 2003 et 2005. Par son groupe armé, les forces armées du peuple congolais. Au mois d'octobre, au titre des activités, nous avons publié des rapports, ça vous le savez déjà, vous avez tous eu accès au rapport sur les violations des droits de l'homme commises par le M23 pendant toute la période que les territoires, certaines parties du Nord Kivu ont été sous le contrôle de ce mouvement. Vous avez également eu l'occasion de lire et de commenter les rapports sur l'opération Likofi, qui a soulevé beaucoup d'encre et sur laquelle nous avons discuté au cours de la réunion passée, de la conférence de presse du mois dernier. Dans le cadre de ces jours d'activisme contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre, qui a démarré hier et qui va se poursuivre jusqu'au 10 décembre. Je rappelle que le 10 décembre est la journée des droits de l'homme. Le bureau conjoint participe à plusieurs activités sur le thème de l'année 2014. Je pense que vous avez déjà le thème. La représentante de UN Women qui est assise à ma droite va revenir longuement là-dessus. De la paix chez soi à la paix dans le monde, défions le militarisme et mettons fin à la violence contre les femmes. Il y a une série d'activités, d'activités marquantes pour les droits de l'homme. La journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, qui a démarré hier le 25. La journée de lutte contre le sida. La journée de lutte contre l'esclavage. Vous avez également la journée de solidarité avec les personnes vivant en situation de handicap. Vous aurez également le clou de ces 16 jours d'activisme, qui est le 10 décembre, qui est la journée des droits de l'homme, avec le thème « Droits de l'homme 365 », pour dire 365 jours de l'année pour promouvoir et protéger les droits de l'homme. Je vous remercie.
Voilà, merci Monsieur Choi. Nous allons repartir une fois de plus à Goma pour entrer en contact avec le colonel Bass pour un point sur la situation militaire dans le pays ces 7 derniers jours. Colonel, c'est à vous une fois de plus.
Oui, merci Charles. Bonjour à tous. Donc, nous démarrons par l'ouest de la République démocratique du Congo, où l'environnement sécuritaire a été jugé calme et imprévisible durant la semaine écoulée. En province orientale, la force de la MONUSCO et l'armée congolaise mènent conjointement leurs opérations qui visent à éradiquer les éléments résiduels de l'armée de résistance du Seigneur et la RAE qui sont auteurs d'exactions dans le district de Haut et de Bawele. En effet, le 18 novembre 2014, des rapports concordants évoque l'enlèvement de 6 individus par les rebelles de la LRA dans la région située à 38 km à l'est de la localité de Bada, parmi lesquels 5 seront plus tard libérés par leurs ravisseurs. Les forces spéciales guatémaltèques et les FRDC mènent conjointement des opérations pour traquer ces rebelles et mettre un terme à leurs activités négatives. En Ituri, le climat sécuritaire a été marqué à Bounia par les négociations en cours visant la reddition auprès des autorités congolaises des éléments du Front de résistance patriotique de l'Ituri FRPI aux ordres du chef rebelle Cobra Matata. Justin Bananloki, alias Cobra Matata, est arrivé le 22 novembre 2014 à Bounia dans le cadre de sa reddition volontaire et a rencontré le gouverneur de la province orientale le 23 novembre 2014. Toutefois, des activités négatives perpétrées par des miliciens du FRPI réfractaires au processus de reddition volontaire ont été rapportés dans certaines localités situées au sud du territoire d'Irumu, notamment à Medu. Au nord Kivu, L'environnement sécuritaire demeure tendu et volatile, mais reste encore sous le contrôle des forces onusiennes et congolaises. Dans le territoire de Beni, des mouvements répétés d'éléments supposés appartenir à l'Alliance des forces démocratiques ADF ont été rapportés. Ainsi, le 19 novembre 2014, des éléments armés non identifiés ont tendu une embuscade à des casques bleus du contingent indien de la police intégrée et du bataillon tanzanien des forces onusiennes en provenance de Beni et se dirigeant vers Mavivi, dans la région de Ngadi, située à 5 km au sud de Mavivi. La force de la MONUSCO a immédiatement déployé sur le terrain des renforts pour contrer les assaillants, les obligeant ainsi à se replier. Le 21 novembre 2014, 9 corps sans vie tués à Masulukwede par des éléments supposés appartenir à l'ADF et récupérés plus tard par les FRDC ont été restitués à leurs familles résidant à Mavivi pour des besoins de funérailles. Cette situation a affecté de manière négative les activités des populations locales et provoqué le déplacement de nombreuses familles vers des régions plus sûres. Les forces de défense et de sécurité congolaises ont mené avec les troupes de la force de la MONUSCO des patrouilles vigoureuses pour traquer et neutraliser l'ennemi, mais aussi rassurer et protéger les populations locales. À cet effet, le 23 novembre 2014, deux éléments supposés appartenir à l'ADF ont été appréhendés dans la région de Muzamba, cellule, environ 2 km de Bokwene centre, et remis à la police nationale congolaise pour des investigations. Dans le territoire de Walikale, les FRDC, soutenus par la force de la MONUSCO, poursuivent les opérations militaires visant à éradiquer les groupes armés dans cette partie du pays. À cet effet, les troupes congolaises ont, au cours de leur offensive contre le chef rebelle Tcheka, tué les éléments commis à sa garde rapprochée. Dans le territoire de Massissi, les forces de défense et de sécurité congolaises ont appréhendé avec le soutien de la force de la MONUSCO le 17 novembre 2014 au village Kiterema, situé à environ 4 km à l'est de Nyabiondo, 5 éléments des groupes armés opérant dans cette région. Du 19 novembre 2014 à ce jour, nous avons enregistré 4 éléments des groupes armés qui se sont rendus aux troupes de l'armée congolaise au bureau de la section DD3R de la MONUSCO déployée à Massissi et à Walikale. Donc il s'agit de 2 FDLR et 2 du groupe Tcheka Nduma Défense du Congo. Le Sud Kivu, quant à lui, est assez calme dans la mesure où l'armée congolaise et la force de la MONUSCO poursuivent leurs opérations contre les groupes armés qui sont actifs dans cette province, mais aussi maintiennent sous leur contrôle l'environnement sécuritaire. Le 21 novembre 2014, 3 éléments de la coalition Maïma Yakutumba ont été tués au cours d'accrochages avec les FRDC à Kibamba, ceci est à 81 km au sud-est de Baraka sur l'axe Nguma-Yungu, le long du lac Tanganyika. Au Katanga, le climat sécuritaire dans les différents territoires de cette province demeure volatile du fait d'activités négatives perpétrées principalement par les éléments des FDLR et ceux du groupe Maïma et Bakata Katanga, mais aussi Yakutumba. Des accrochages ont en effet opposé les troupes gouvernementales à des éléments d'une coalition FDLR Maïma et Yakutumba au village Katabakwa, situé à 2 km au nord de Manyanga, dans la périphérie de Bendera, à 120 km au nord de Kalemie, au cours desquels un insurgé a été tué, mais aussi un soldat congolais blessé. Le secteur 2, quant à lui, est calme. Et enfin, concernant les activités que nous avons menées en termes de patrouilles, nous enregistrons 2131 patrouilles armées, dont 610 nocturnes, et avons fourni pendant cette période 56 escortes. Merci de votre attention.
Voilà, merci bien, colonel Bass, depuis Goma. La parole est maintenant à notre invitée, madame Françoise Guendahayo, qui est représentante de ONU Femmes en RDC. Madame Guendahayo, bonjour. Alors, ONU Femmes mène plusieurs activités ici à RDC et je crois que ces derniers jours, vous avez lancé une série d'activités conjointement avec d'autres organisations de la place. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Merci Charles. Chers auditeurs, j'ai le plaisir de... J'ai le plaisir de vous présenter quelques activités effectivement qu'ONU Femmes a menées les derniers jours. Comme vous le savez, nous avons un mandat très large allant de la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre, en passant par l'autonomisation de la femme, en passant également par la, le programme Femmes Paix Sécurité, ça veut dire les femmes en post-conflit, et aussi la participation politique de la femme. Très récemment, nous avons organisé à Zongo une formation des formateurs au niveau de la CENI pour leur confier le rôle de former les femmes pour leur participation lors de la campagne électorale prochaine. Et puis, ce que nous insistons sur... pourquoi nous insistons beaucoup sur ce fait? Parce que nous avons trouvé la CENI en tant qu'organe neutre pour perpétuer ce que nous voulons faire sans que ONU Femmes le fasse directement. Au moment où je vous parle, c'est maintenant les membres de la CENI qui sont en train d'être formés. Mais plus pratiquement, hier, nous avons lancé la campagne pour la lutte contre les violences faites aux femmes, les 16 jours d'activisme. Si vous voulez que je revienne un peu sur pourquoi cette journée, elle commence par l'assassinat le 25 novembre 1960 de trois sœurs Mirabel, militantes politiques dominicaines, et qui a conduit la République dominicaine à proposer cette journée de lutte contre la violence faite aux femmes. Et ensuite, c'est l'Assemblée générale des Nations Unies en 1993 qui a adopté la déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Avec un processus suivi au niveau des Nations Unies, ça a abouti en 2008 à la création par le secrétaire général de l'ONU lui-même de la campagne Tous Unis pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes. C'est un effort pluriannuel qui vise à prévenir et à éliminer la violence à l'égard des femmes et des filles dans toutes les parties du monde. Maintenant, le secrétaire général avait lancé la campagne Tous Unis. Et la directrice exécutive de l'ONU Femmes, qui a pris fonction l'année passée, elle vient de lancer une autre campagne qui précise mieux ce que le secrétaire général vraiment voulait dire en disant « Nous lançons une campagne « He for She ». Une campagne « Lui pour elle ». Ça veut dire qu'on s'est rendu compte qu'il y a une nouvelle stratégie qu'il faut adopter. Malgré les efforts des femmes depuis Mexico, en passant par Nairobi et Beijing, on s'est rendu, Beijing plus 5, Beijing plus 10, on s'est rendu compte que les progrès ne vont pas par rapport aux efforts consentis, ne marchent pas par rapport aux efforts consentis. Donc les résultats sont faibles par rapport aux efforts qui sont engagés globalement. Alors on s'est dit, voilà, il faut changer de stratégie. Il faut impliquer les hommes, il faut impliquer les garçons pour que l'action ne soit plus une affaire de femmes et de jeunes filles, pour que l'action soit traitée comme une action de violation des droits de l'homme, comme mon collègue vient de le dire. C'est une action qui concerne toute la société. Et le grand manquant dans ce processus, c'était les hommes et les garçons, alors que ce sont des auteurs potentiels. Pour ne pas dire que la majorité des auteurs sont parmi les garçons et les hommes. Donc, il faut les associer pour mener cette lutte, pour dénoncer, pour prévenir et pour convaincre, pour dissuader s'il le faut. Et ça, c'est au niveau des écoles, ça, c'est au niveau des universités, c'est au niveau des communautés. Et cette campagne, en fait, elle a commencé. Il y a déjà 1800 adhérents. Si je ne me trompe pas, hier il y avait 180 000 adhérents déjà, et je crois que le 180 hier il y avait déjà 8 personnes qui se sont enregistrées au niveau de la RDC, à commencer par le coordinateur résident et quelques collègues, et surtout les journalistes. Ils se sont enregistrés parce qu'ils se sont sentis très concernés, et j'aimerais que vous vous sentiez aussi concernés par cette campagne de la He for She.
Alors, peut-être en conclusion, parce que nous allons ouvrir la série de questions-réponses bientôt, un mot pour conclure avant donc cette séance de questions-réponses avec les journalistes.
Donc, pour conclure, on vous demanderait de présenter la campagne He for She à un ami, à un parent, et les encourager à y participer. Participez aux activités He for She organisées dans votre communauté, votre club de jeunes, votre université. Organisez cet événement pour avoir le soutien des contributions de haut niveau et émissions de sensibilisation de la population, mobilisation de la société civile. Pour conclure, je voulais relever que c'est un acte d'engagement. Ce n'est pas nécessairement un enregistrement sur le site web qui va vous être communiqué, ou commencer quelque chose, ou mettre la couleur orange que nous tous et toutes avons mis hier. C'est au-delà de ça, c'est essayer de s'engager et être déterminé à faire quelque chose au niveau des communautés. C'est un processus, nous venons de lancer ça. Ça a été lancé avant dans d'autres pays. Et je vous remercie pour d'autres questions que vous voulez bien me poser.
Voilà, merci à Madame Gendahayo.